Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Lamartine et Victor Hugo sont immortels et sont des immortels. Lamartine reçu à l'Académie française en 1830 et Victor Hugo en 1841. Leurs poèmes sont immortels. Alors, c'était des amis, nous le verrons, des poètes engagés, parce qu'ils eurent un rôle politique très actif. Engagés donc et courageux, leurs discours et leurs lettres nous montrent leur concordance, leur correspondance dans les grands combats de la liberté du 19e. Les éditions de l'Épervier ont réuni dans un ouvrage superbe, noir et vert, ces textes. Michael Parer, directeur de la collection des écrivains engagés, est avec nous pour évoquer d'une part cette collection et d'autre part nous faire revivre les écrits parfois impubliés de Lamartine et Victor Hugo qui ont des destins parallèles. Bonjour Michael Parer.
Bonjour.
Merci de votre visite à Canal Académie.
Merci.
Pourquoi cette collection et comment Victor Hugo et Lamartine avaient, dit-on, des destins parallèles ?
L'idée de rassembler des textes de Victor Hugo et de Lamartine tient au fait que, dans le cadre de notre maison d'édition, donc, nous avons voulu montrer les rapports de complémentarité entre les grands auteurs, souvent au plan littéraire, mais aussi et toujours au plan politique.
Littérature comparée oblige ?
C'est ça, littérature comparée oblige. Je pense que dans la confrontation des textes et des hommes, on tire souvent des leçons d'opposition. Nous, nous avons voulu tirer des leçons de complémentarité, c'est-à-dire voir comment les hommes se rejoignaient, plutôt que de montrer, comme cela est fait de manière incessante, de voir comment ils s'opposaient. Donc l'idée a été, donc, elle est double, elle est à la fois de montrer contre, je dirais, une certaine histoire classique de la littérature française, qu'il y a beaucoup de rapports de proximité entre Lamartine et Victor Hugo, et que pour une part, cette proximité ne tient pas simplement à l'engagement de poètes romantiques qu'ils sont. Hein. Bien sûr, les méditations poétiques de Lamartine, et puis tous les grands poèmes romantiques de Hugo, les légendes des siècles, ou les contemplations, mais qu'ils tiennent aussi, au-delà de leur sensibilité littéraire commune, à une sensibilité politique, et à un parcours, à un trajet qui est, lui aussi, très semblable. Et c'est quelque chose qui, je pense, est assez peu dit pour une raison simple, c'est que je crois qu'aujourd'hui, il y a une valorisation très importante de Hugo par rapport à Lamartine. Et quand on étudie en fait le parcours politique des deux hommes, on se rend compte que non seulement il est semblable, mais que par moments, Lamartine a été beaucoup plus progressiste encore
et
que
n'a pu l'être. Victor Hugo.
Et a précédé Victor Hugo.
En fait, Lamartine a précédé Victor Hugo non seulement parce qu'il avait quelques années de plus, mais aussi parce qu'il a traité certains sujets avant que Victor Hugo ne les traite. Je pense à l'abolition de l'esclavage, entre autres.
Entre autres, tout à fait, à l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la peine de mort. Et par exemple, nous avons donné dans notre recueil de textes, justement, le discours de Lamartine sur l'abolition de la peine de mort, discours prononcé à l'Hôtel de Ville, 18 avril 1836, et aussi le discours de l'abolition de la peine de mort de Victor Hugo, séance du 15 septembre 1848 à l'Assemblée constituante. Et c'est intéressant, c'est vrai, toujours dans le cadre de cette idée hein, d'une histoire à la fois littéraire et politique comparée, de voir comment, quels arguments utilisent les deux hommes et en même temps comment ils vont dans le même sens. Donc on parlait donc tout à l'heure de leur engagement et on parlait aussi de leur parcours. Je crois qu'il est intéressant de dire que ce sont bien sûr des poètes politiques, donc qui s'inscrivent dans une tradition qui est à mon avis celle du romantisme progressiste, parce qu'il y aura un autre type de romantisme beaucoup plus conservateur par la suite et un peu décadent, je pense à des gens comme Barbey d'Aurevilly. Et il y a aussi donc une volonté de changer les choses. C'est quelque chose qu'on ne dit plus quand on parle de Lamartine, mais Lamartine a été très engagé politiquement, au point qu'il est sous le règne de Louis-Philippe. Donc, il a été le chef de l'opposition à Louis-Philippe.
C'est lui qui a lancé les banquets.
C'est lui qui inaugure le premier banquet qui va donner lieu à la Révolution de février 1848. Et donc, il est l'un des promoteurs de la Révolution. Et en fait, il avait rompu avec le régime, entre guillemets, parce qu'il était membre quand même de l'Assemblée, mais il n'était plus favorable à Louis-Philippe et chef de l'opposition depuis déjà 1841. Et il était donc dans l'idée déjà à partir de ce moment de changer quelque chose. Et c'est le produit d'une évolution, parce que au départ, Lamartine, c'est un noble, il avait même était garde du corps de Louis XVIII, et simplement son évolution, son parcours, comme celui de Hugo, qui va aller du monarchisme au radical-socialisme, eh bien Lamartine l'a précédé aussi dans un mouvement qui ressemble à ça.
Mais il aurait pu être le premier président de la République de la Révolution de 1848.
Et oui.
Donc c'était un rôle qu'il aurait pu avoir et rester dans les souvenirs de tout le monde. Or, il n'a pas été tellement plébiscité.
Non, il n'a pas été plébiscité puisqu'il a été battu par Napoléon Bonaparte, qui va devenir Napoléon III. Il est oublié politiquement, et pourtant, je pense que c'est dommage parce qu'il a eu un rôle déterminant justement dans cette manifestation, en tout cas dans la Constitution, d'un mouvement littéraire romantique vraiment révolutionnaire et progressiste. Bah, lui, il est quand même à l'origine d'une révolution, directement. Et Hugo, dans cette période, c'est intéressant, est un peu, je dirais, à la traîne. Il suit, plus qu'il n'est véritablement acteur, même s'il va rentrer lui aussi à l'Assemblée constituante de 48. Mais il est encore un peu, à ce moment-là, à la traîne. Et donc Lamartine, député donc de 1833 à 1851, va jouer un rôle politique très important.
Et nous lui devons notre drapeau.
Oui, nous lui devons notre drapeau, c'est vrai. Enfin, plus exactement, nous lui devons le fait que le drapeau français ne soit pas un drapeau rouge, parce qu'en 1848, il y a eu un mouvement favorable justement au remplacement du drapeau tricolore qu'on connaît tous. Nous avons donné le texte qui correspond justement à l'intervention de Lamartine, qui défend l'idée du drapeau aux trois couleurs et qui demande qu'il ne soit pas changé, et il n'a pas été changé. Si vous voulez, on peut lire le texte qui correspond justement à ce moment-là. Alors, Lamartine s'intéresse donc et s'adresse donc aux citoyens qui lui ont demandé de changer la couleur du drapeau, et donc il dit la chose suivante. « Citoyens, vous pouvez faire violence au gouvernement. Vous pouvez lui commander de changer le drapeau de la nation et le nom de la France. Si vous êtes assez mal inspiré et assez obstiné dans votre erreur pour lui imposer une république de parti et un pavillon de terreur, le gouvernement, je le sais, est aussi décidé que moi-même à mourir plutôt que de se déshonorer en vous obéissant. Quant à moi, jamais ma main ne signera ce décret. Je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang, et vous devez le répudier plus que moi, car le drapeau rouge que vous rapportez n'a jamais fait que le tour du champ de Mars, entraîné dans le sang du peuple en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec le nom, la gloire et la liberté de la patrie. » Oui, c'est intéressant comme intervention, parce qu'il assimile le drapeau rouge au drapeau de sang, ce qui, à mon avis, pourrait être discuté parce que c'est le drapeau, comme il le dit lui-même, du sang des victimes, donc on aurait pu le prendre comme emblème. Mais ce qui se passe, c'est que Lamartine, on le sait, est l'auteur d'une histoire des Girondins. Et il était donc très favorable à l'esprit des révolutionnaires français, justement de l'époque de la Gironde.
Centriste, on va dire.
Oui, centriste, et je crois en même temps, peut-être pas si centriste que ça quand on regarde bien leur histoire personnelle. On les dit souvent, les Girondins, fédéralistes, donc il y avait Gadet, Jansonnet, Pétion, Barbaroux, et puis Vergniaud, d'autres encore. Mais surtout, je crois qu'ils étaient, bon, on les dit aussi fédéralistes, bien sûr. Surtout, ce qui se passe, c'est qu'il était favorable à ce que cette tendance philosophique incarne d'une certaine manière, c'est une forme d'esprit de Montesquieu, l'idée de la séparation des pouvoirs. C'est vrai qu'il s'est joué pendant la Révolution française, au moment où les Girondins vont être exécutés par les Jacobins et par Robespierre, c'est justement la question de la centralisation du pouvoir et de l'intervention du peuple. Donc, ce dont Lamartine se réclame, en ce sens, à travers cet éloge qu'il fait du drapeau, c'est de l'histoire des Girondins et de l'histoire assez glorieuse de la Révolution française dans cette période. Voilà. Et ça me semble intéressant parce que ça montre, par exemple, l'influence directe d'un poète qu'on dit lyrique et préoccupé simplement par les souffrances du moi dont on ne parle que lorsqu'il parle du lac. Il y a autre chose que le lac à lire chez Lamartine.
Bien sûr, c'est un poète politique.
C'est un poète politique.
Romantique, progressiste et politique.
Et politique. Qui va donc passer d'une forme de christianisme orthodoxe, puis un christianisme social, et finalement un engagement républicain. Et un républicain qui est socialiste, et si on voulait faire une petite distinction, même si c'est un peu anachronique à l'époque, on voit qu'il ne va pas jusqu'à l'idée communiste. Et d'ailleurs, il en parle plusieurs fois, c'est dans d'autres discours qu'on n'a pas choisi là, mais c'est pas quelqu'un qui va jusqu'à l'idée d'une mise en commun et d'un partage égal, par exemple, des biens et des richesses. Ça, c'est pas une idée qu'il pouvait concevoir.
Son milieu, peut-être, ne le poussait pas à ça, parce que c'était un aristocrate de plutôt obreau de province.
Exactement.
Mais toutefois.
Oui, c'est vrai. Son milieu exactement social ne le poussait pas à aller jusqu'à l'idée d'un partage total.
Et puis il est mort trop tôt pour ça, puisqu'il est mort en 1869 et qu'il n'a pas assisté à la Commune.
Exactement.
Qui aurait peut-être fait évoluer ses idées.
Tout à fait, ça aurait pu, bien sûr, faire évoluer ses idées. Et ce qui est triste dans le cas de Lamartine, c'est qu'il est mort, alors, si on veut le comparer à Victor Hugo, dans une situation d'exil intérieur. Et Hugo, lui, par contre, va survivre dans le siècle et, on le verra plus tard, prendre la défense des communards, demander leur amnistie.
Oui, pour la loi de l'amnistie, oui.
Ouais. Et ça, on a cité le texte aussi de Hugo dans notre recueil. Pour revenir à Lamartine, il est mort dans une forme d'exil intérieur parce qu'après avoir été battu par Napoléon et après avoir aussi assisté au coup d'État donc du 2 décembre 1851, il va se retirer et ne plus se consacrer qu'à la rédaction de biographies et de choses comme ça. Mais d'histoires qui, en fait, étaient destinées, pour une grande part, à lui permettre de payer les dettes qu'il avait, notamment relativement à l'entretien du château qui était le sien et des domaines qui étaient les siens, qui lui coûtaient très cher. Et donc, il va complètement se retirer dans une forme d'exil intérieur. Et c'est intéressant par rapport à Hugo, parce que Hugo, lui, après 1851 et le coup d'État, donc de Napoléon Bonaparte, il va partir dans une forme d'exil extérieur, au contraire, hein, puisqu'il va partir à Jersey, puis à Guernesey, et il ne reviendra qu'avec la chute de Napoléon III en 1871.
Je pense qu'il y a une petite nuance à apporter, c'est que Lamartine a été extrêmement déçu et extrêmement touché par le rejet de ne pas avoir été élu. Il a vraiment cru qu'il avait ses chances et puis, il a, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'avait pas été plébiscité, parce qu'en fait, il avait eu très peu de voix même. Donc c'était une déception politique et humaine importante, un bilan. Alors que Victor Hugo, lui, partait pour une aventure parce que son idéal l'empêchait de rester sur un sol. C'est pas du tout la même cause de l'exil.
C'est vrai, ce n'est pas la même cause, mais d'une certaine manière, c'est intéressant quand on voit le détail des biographies, on sait que Lamartine a été ensuite approché par Napoléon III, qui a essayé de le récupérer.
Victor Hugo aussi.
Et Victor Hugo aussi, tout à fait. Mais lui, il était depuis plus longtemps, puisqu'il appartenait au parti bonapartiste. Et même d'une certaine manière, et là c'est toute la contradiction de Hugo, c'est qu'il a fait beaucoup pour l'élection de Bonaparte comme président. D'ailleurs, d'une certaine manière, c'est son paradoxe, et il le fera payer plus tard très cher à Napoléon III en écrivant les châtiments.
Et en le traitant de petit.
En le traitant de petit. D'ailleurs, nous avons choisi dans notre sélection des textes donc, de Hugo à l'Assemblée, un texte vraiment central sur cette question de Napoléon le Petit, qui me semble sans doute significatif et qu'il faut lire. Ce n'est qu'une partie du texte, mais voilà par exemple ce qu'il dit.
Alors nous sommes le 17 juillet 1851.
Voilà, nous sommes le 17 juillet 1851 à l'Assemblée législative, et ce qui se passe, c'est que Hugo anticipe le fait qu'il va y avoir un coup d'État, il le sent. Hein. Puisqu'en plus, il était à l'origine bonapartiste, donc il sent bien qu'il se passe quelque chose. Et voilà ce qu'il dit. Quoi ? Parce que, il y a 10 siècles de cela, Charlemagne, après 40 années de gloire, a laissé tomber sur la face du globe un sceptre et une épée tellement démesurés que personne ensuite n'a pu et n'a osé y toucher. Et pourtant, il y a eu dans l'intervalle des hommes qui se sont appelés Philippe Auguste, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Quoi ? Parce que, 1000 ans après, car il ne faut pas moins d'une gestation de 1000 années à l'humanité pour reproduire de pareils hommes. Parce que 1000 ans après, un autre génie est venu, qui a ramassé ce glaive et ce sceptre, et qui s'est dressé debout sur le continent, et qui a fait l'histoire gigantesque dont l'éblouissement dure encore, qui a enchaîné la Révolution en France et qui l'a déchaînée en Europe, qui a donné son nom, pour synonyme éclatant, Rivoli, Iéna, Essling, Friedland, Montmirail. Quoi ? Parce que, après 10 ans d'une gloire immense, d'une gloire presque fabuleuse à force de grandeur, il a, à son tour, laissé tomber d'épuisement ce sceptre et ce glaive qui avaient accompli tant de choses colossales. Vous venez, vous voulez, vous, les ramasser après lui, comme il les a ramassés, lui, Napoléon, après Charlemagne, et prendre dans vos petites mains ce sceptre des titans, cette épée des géants. Pourquoi faire ? Longs applaudissements. Après Auguste, Augustule, quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Donc voilà l'apparition du premier terme, de la première occurrence, Napoléon le Petit, qui sera ensuite si célèbre dans l'histoire de la littérature à travers les châtiments. Et ce que je trouve vraiment passionnant dans le discours que fait Hugo, donc, ce jour du 17 juillet 1851, c'est d'abord le style, c'est-à-dire qu'on retrouve le style romantique, mais là, appliqué en politique.
Très orateur.
Voilà, l'art oratoire incroyable, la manière dont il envoie les phrases et dont il arrive ensuite à capter au fur et à mesure de la progression de son texte et de sa phrase, l'auditoire, et aussi l'incroyable comparaison qu'il arrive à faire, la perspective historique qu'il prend de Charlemagne à Napoléon III, en lui disant Finalement, Napoléon, vous n'êtes rien, vous n'êtes pas Charlemagne, vous n'êtes pas...
Vous n'êtes même pas un aigle.
Vous n'êtes même pas un aigle, voilà. Et ce qu'on retrouve aussi là-dedans, et qui fait une différence avec Lamartine, parce qu'on pourra lire un texte de Lamartine, si vous voulez, tout à l'heure sur Napoléon, c'est qu'on le voit, Hugo est resté favorable à Napoléon. Enfin, disons qu'Hugo, on le sait, a évolué. Hein. Dans sa jeunesse, il était monarchiste, il avait rompu complètement avec Napoléon, son père était pourtant... Un militaire de carrière, justement, de l'armée de Napoléon. Mais c'est revenu ensuite, il a été napoléonien. Et d'une certaine manière, ce qu'il ne va jamais véritablement perdre, c'est une certaine forme d'admiration, on va dire un petit peu romantique, pour le personnage de Napoléon lui-même. Et ça le rapproche de Byron aussi. Parce que, on l'a vu dans une autre émission, un des poètes, grands poètes romantiques anglais, était favorable à Napoléon. Il y avait une vision romantique de Napoléon, de ce qu'il avait pu apporter à l'Europe et tout ça. Et d'une certaine manière, Hugo en est encore... est encore imprégné de cette idée-là, même si, on va le voir aussi, à partir de ce moment-là, à partir du moment où il rompt avec Napoléon, il va rompre aussi avec le bonapartisme et avec ce que ça suppose comme philosophie du leadership et de l'homme unique. Ça, il va l'abandonner, au profit ensuite d'un radicalisme socialisant et d'une volonté démocratique de partager le pouvoir et les richesses. Enfin, il va, sur la fin de sa vie, et notamment quand il est au Sénat et même avant, à partir de 1871 en fait, hein, quand il va revenir... en France et au moment de la Commune, il va complètement abandonner ce qui, en 1848, est encore quelque chose qui l'imprègne beaucoup, à savoir le bonapartisme du premier Bonaparte. Quoi.
D'ailleurs, à son retour, au moment de sa lettre et son discours pour l'armistice des communards, on voit aussi qu'il fait un rappel historique d'une façon très pressante, toujours anti-bonapartiste, et on voit que... il avait le sens, cette fois-ci, d'un homme mûr qui savait qu'on essaye de faire de bonnes choses, mais qu'on échoue parfois. Et ça, c'est toujours important de voir l'évolution de ce personnage.
Oui, complètement. En effet, on pourra aborder, si vous le voulez, la question qui est importante, en fait, de Victor Hugo au Sénat et de la manière dont il a compris son rôle social à partir de 1871, parce qu'il y a de très beaux textes là-dessus, autour de la question du Sénat. Mais peut-être qu'on peut parler un petit peu avant ça de la position de Lamartine par rapport à Napoléon. Parce qu'on l'a vu donc, hein, Hugo a été bonapartiste, pro-napoléonien, il a même aidé à l'élection du futur Napoléon III. Et là, par contre, quand on lit Lamartine, on voit que très tôt, il avait pris ses distances avec cette figure.
C'est pour le transfert des cendres de Napoléon, le 26 mai 1840 ?
Voilà. Au moment où on propose le transfert des cendres de Napoléon, Lamartine fait un discours où en gros, il dit « Je n'y suis pas opposé, mais soyons prudents. » Parce que Napoléon n'incarne pas simplement une espèce de gloire nationale française, ça a été aussi des désastres nationaux importants. Et donc il est très directement critique par rapport à ça. Et comme toujours chez Lamartine, comme il ne veut pas insulter les gens ou ses collaborateurs, comme il ne veut pas être opposé ou comme il ne veut pas s'opposer à eux de manière trop sévère, il essaie de maintenir les choses et de leur dire « bon, réfléchissons, on peut le faire, mais... soyons prudents et choisissons bien le lieu. » Alors voilà ce qu'il dit, par exemple, à la fin de son discours. Alors, justement, c'est la question du lieu où on va le mettre. « À l'arc de triomphe de l'étoile, c'est trop païen. La mort est sainte et son asile doit être religieux. Et puis, songez-vous, si l'avenir, comme nous devons l'espérer, nous réserve de nouveaux triomphes, quel triomphateur, quel général, oserait jamais y passer ? Ce serait interdire l'arc de triomphe, ce serait fermer cette porte de la gloire nationale qui doit rester ouverte sur vos futures destinées. Enfin, à la colonne de la Bastille, sous le monument de Juillet, mais quel rapport possible entre ce monument et Napoléon ? Qu'y a-t-il de commun entre ce 18 Brumaire du peuple et le 18 Brumaire d'un soldat ambitieux ? Juillet s'est armé pour protéger la liberté et inaugurer la monarchie constitutionnelle d'une famille, d'une dynastie opposée à la sienne. Que ferait-il là ? La liberté et lui pourraient-ils se regarder sans ironie ? Votre monarchie constitutionnelle et lui pourraient-ils se regarder sans trembler ? Non. Après Saint-Denis, après le Panthéon purifié et rendu au culte, je ne verrai qu'une place convenable. Ce serait un emplacement où il serait seul, comme au Champ de Mars, et où sa statue et son génie passeraient encore les revues de nos soldats au départ et au retour. Mais, soit que vous adoptiez cette idée, soit que vous choisissiez Saint-Denis ou le Panthéon, ou les Invalides, souvenez-vous d'inscrire sur ce monument où il doit être à la fois soldat, consul, législateur, empereur. Souvenez-vous d'y écrire la seule inscription qui réponde à la fois à votre enthousiasme et à votre prudence, la seule inscription qui soit faite pour cet homme unique et pour l'époque difficile où vous vivez, à Napoléon, seul.
Profonde sensation.
Profonde sensation dans l'Assemblée, voilà. Donc, on le voit, il est désireux de ne pas redonner au lustre napoléonien, ce qu'il a signifié en termes aussi de combats militaires, d'aventures collectives désastreuses pour la France. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est peu dit, mais il y a un collapsus en France qui est lié au fait que les hommes les plus vigoureux étant partis à la guerre et y étant morts pour une très grande part. Par exemple, on a pu observer une diminution de la taille, même moyenne et générale, à l'intérieur du peuple français, du fait que les hommes ont été décimés sur les champs de bataille européens. Donc il y a une très grosse responsabilité de Bonaparte dans toute une série de désastres qui vont, s'abattre sur la France. Mais en tout cas, plus particulièrement dans le texte de Lamartine, il est clair qu'il est réticent par rapport au type de leadership que représente Bonaparte. Ça fait une grosse différence quand même avec Hugo. Et c'est très intéressant dans le texte qu'on a choisi de voir justement à quel point Lamartine est parti en avance par rapport à Hugo. C'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un petit peu comme une course de fond. On voit Lamartine partir d'abord, et puis il va s'arrêter, et Hugo, lui, part de bien plus loin derrière, et il va continuer. Et finalement, ils vont se rejoindre dans une forme de progressisme très clair, au point qu'ils se ressemblent à la fin, chacun d'une certaine manière dans leur vie. Mais c'était des amis, hein. Ils étaient proches, ils ont été amis très longtemps.
Oui, parce que dans votre petite collection, vous avez donné quelques lettres qui nous montrent que leurs idées politiques, bien que parfois un petit peu divergentes, pas tant que ça, ne les a pas empêchés d'être amis.
Exactement. Ils ont toujours eu beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Et de ce point de vue-là, on peut lire peut-être une lettre de Lamartine à Victor Hugo du 4 mai 1860, où on verra un petit peu comment Lamartine répond à Hugo qui vient de lui écrire. C'est intéressant. Il lui dit « Mon cher ami, je ne vous dirai jamais combien mon cœur et mon orgueil sont touchés de votre constance à me donner signe d'amitié du haut de votre rocher dans mon abîme. Les grands cœurs sont la poésie des caractères. Il en reste peu, mais il en reste 8 ou 10 dans cet exécrable monde. Vous en avez fait la satire de bronze, mais moi j'en ferai en vivant ou en mourant l'imprécation de la chair qui souffre. La France, à l'exception d'une petite élite imperceptible, est féroce envers moi. Je dissimule mal mon soulèvement intérieur contre les outrages positifs ou négatifs dont elle se plaît à me flétrir. J'écrivais hier à Sosthène de la Rochefoucauld, à propos d'une indignité de son parti et de son maître, la prérogative de l'outrage n'a jamais été en France une prérogative de la couronne. Mais il paraît que c'est une prérogative du peuple. Adieu. Soyez heureux dans votre air pur, au bruit de vos vagues. J'ai eu bien du plaisir à voir Madame Hugo, si noble et si belle dans son lointain. Cela m'a valu un très beau portrait d'Hugo au repos, qu'on admire tous les soirs dans mon ermitage. L'entreprise de mes œuvres complètes réussit un peu, mais mollement, et je vous écris entre deux huissiers qui attendent le salaire du jour. Quelle vie ! Adieu encore, signé Lamartine.
C'est effectivement très romantique et très pathétique pour le pauvre Lamartine.
Oui, c'est vrai. C'est un homme qui est mort triste, je pense.
Merci beaucoup, Michael Parer. À donc une prochaine fois.
Je vous remercie.